podcast de l'UA. C'est quoi cette histoire de bâtard ? Mathilde, Guillaume le Conquérant, Philippe Urpel, Hector, Corneille et toi. Épisode 8.
C'est intéressant tout ça, mais c'est quoi les bâtards ?
Qu'y a-t-il de commun entre Guillaume le Conquérant, affublé du surnom de Notus, qu'on traduit par bâtard aujourd'hui que le latin des clercs du XIIe siècle n'est plus guère compris, Philippe Urpel ou Marie, les enfants naturels du roi Philippe Auguste qui régna de 1180 à 1223, nés d'une union illégitime avec Agnès de Méranie, mais qui furent légitimés par un acte juridique du puissant pape Innocent III à la fin de l'année 1201. Qu'y a-t-il de commun entre ce Guillaume-là, fils du duc de Normandie Robert le Magnifique, fruit de l'union morée d'Anico avec Erléva de Falaise, dont les chroniques ont conservé si peu de choses, née d'un couple qui n'était pas fondé selon les coutumes et les rites de la conjugalité chrétienne que l'Église commençait à imposer en ses premières décennies du XIe siècle, et Pierre Charlot, cet autre fils illégitime du puissant roi capétien Philippe Auguste, né d'une mère dont rien ou presque n'est resté dans les mémoires du royaume, sinon ce surnom de demoiselle d'Arras. Qu'y a-t-il de commun entre ces bâtards capétiens de la fin du XIIe siècle, premiers bénéficiaires en 1201 pour Philippe et Marie de la légitimation par acte de chancellerie, ici pontificale, afin de sécuriser, le cas échéant, la survie d'un héritier légitime au roi de France, et les bâtards des grands princes des XIVe et XVe siècles. Les bâtards d'Orléans, bâtards de Bourgogne, bâtards de Bourbon ou d'Armagnac, pour ne parler que de quelques-uns des puissants lignages du seul royaume de France. Ils ont laissé à la postérité, sinon toujours une mémoire glorieuse, du moins une abondante documentation archivistique qui traduit leurs actions multiples dans la société de leur temps. Il y eut Corneille, mort en 1452, l'aîné des fils naturels du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, ou Antoine, surnommé le Grand Bâtard de Bourgogne, ou Jean, mort en 1468, comte de Dunois et de Longueville, neveu de Charles VI et membre de la maison d'Orléans, et puis tant d'autres. Ceux-ci furent reconnus, inscrits dans la mémoire familiale, mobilisés dans les alliances de pouvoir. Ils n'eurent toutefois pas tous à être légitimés, car naître bâtard de duc, c'est être d'abord fils de duc. Qu'y a-t-il de commun encore entre Jean de Bourgogne, bâtard de Jean sans peur, placé sur le siège épiscopal de Cambrai jusqu'à sa mort en 1480, grâce au soutien précieux de son demi-frère, le légitime duc Philippe le Bon, et Jean de Bourbon, bâtard de Jean Ier, mort en 1485, évêque du Puy et abbé de Cluny, ou encore Hector, mort quant à lui en 1502, archevêque de Toulouse, tout en étant né fils naturel du duc de Bourbonnais Jean II. Deux principautés différentes, mais une communauté de destin, de soutien, de réseau à bien des égards. Qu'y a-t-il de commun entre ceux-là, nés dans la très haute aristocratie, et les fils de prêtres ou de prélats, qui certes purent accomplir une carrière dans l'Église à coup de dispense apostolique, dont l'obtention révèle elle aussi la mobilisation possible d'un réseau de soutien, mais pour qui il ne fut pas question de passer outre les conditions de leur naissance. Qu'y a-t-il de commun enfin entre ceux que la législation flamande, que rappelle par exemple Myriam Grelsamer, appelle les enfants de jeu, les Spielkinderen, nés de parents simplement célibataires, non engagés l'un envers l'autre dans le mariage au moment de leur conception, et qui peut-être n'avaient pas le projet de devenir des époux, mais de parents dont rien n'interdit in fine l'union réparatrice de la faute morale aux yeux de l'Église. Et puis, ces bâtards réprouvés, ceux qui vont grossir les rangs des catégories établies peu à peu par les juristes, tant de l'Église que des coutumes qui organisent les relations patrimoniales et civiles au sein de territoires bien définis. Les Wulgokonkepti, les illegitime geniti, les nati ex fornicatione. Nés d'un adultère, nés de parents dont la parenté trop proche empêche tout mariage réparateur, ou nés du sacrilège d'une relation sexuelle avec un homme d'église ou une religieuse. Tous ceux que Philippe de Beaumanoir, dans ses Coutumes du Beauvaisis, rédigées au milieu du XIIIe siècle, aurait rejetés en dehors du groupe des zoars loyaux, des héritiers légitimes, pour en faire donc des bâtards. Tous, glorieuses ou anonymes, sont à leur manière des bâtards. Tous, bien sûr, n'ont pas été expressément qualifiés comme tels dans les sources écrites qui ont été produites en leur temps. Selon les archives qui en témoignent et selon les administrations qui ont produit ces archives, ils ou elles ont été présentés comme nés de la faute de leur géniteur, solutus cum soluta, des célibataires, marqués par une irrégularité, par un defectus natalium ou un vicium generationis ou une macule de géniture. Ces expressions proviennent bien souvent de documents qui témoignent d'une requête pour être réintégrés dans la norme, ou de l'acte qui concède la dispense ou la grâce de la légitimation. Parfois sont-ils désignés comme des fils ou des filles illégitimes et parfois seulement comme des enfants naturels. Parfois vont-ils pouvoir inscrire leur nom dans des actions publiques ou privées, servir leur lignage en étant associés à des alliances féodales, diplomatiques, matrimoniales. Parfois vont-ils administrer des comtés, des seigneuries, régir des institutions ecclésiastiques, grâce à l'obtention d'une régularisation administrative, dirions-nous, de leur état de naissance, et parfois sans que cela soit nécessaire. À la mesure de la puissance et des réseaux de pouvoir de leur père ou de la famille paternelle, ou parce qu'avant le XIIIe siècle, d'autres logiques prévalaient, d'autres normes régulaient les interactions sociales. Entre Guillaume le Conquérant et, par exemple, Antoine, le grand bâtard de Bourgogne, 400 ans se sont écoulés. En 4 siècles, comme ont eu le temps d'évoluer les conditions sociopolitiques dans lesquelles a pu s'exercer et se légitimer le pouvoir des princes qui commandent, gouvernent et administrent. Le premier, duc de Normandie, conquérant de l'Angleterre en 1066, n'est même pas qualifié de son vivant par ce surnom qui traduit au XIIe siècle la dénonciation du concubinage de ses parents. Le dire « notus », c'est le désigner comme fils d'une mère de peu, née hors mariage. C'est une dénonciation rhétorique peut-être, mais significative de l'évolution aussi des mentalités des rédacteurs de chroniques, ecclésiastiques bien sûr, de la qualité insuffisamment chrétienne de l'union de Robert le Magnifique et de Erleva ou Arlette, que dans les traditions scandinaves, pré-chrétienne, on appelle une frilla, et que les premiers chroniqueurs du XIe siècle, comme Raoul Glaber, appellent une concubina, une concubine. Avant de s'embarquer pour un pèlerinage à Jérusalem, Robert le Magnifique réunit en janvier 1035 ses barons à Fécamp. Le chroniqueur de l'abbaye de Jumièges, Guillaume de Jumièges, auteur des Gesta Normannorum Ducum, la geste des ducs des Normands, qui vécut en même temps que le fils du duc, rapporte la contestation des barons à cette annonce, inquiet des risques pour le lignage ducal et la stabilité du pouvoir. Au XIIe siècle, le poète anglais Wace, à l'origine du développement de la matière arthurienne, très proche du pouvoir anglo-normand issu du lignage de Guillaume le Conquérant, prêtera ces mots au duc Robert quand il décide de couper court aux inquiétudes des barons. « Seigneur, vous dites veille, vrai, que je n'ai ni enfant ni heir, héritier, sauf un petit-fils que j'ai. Celui-ci, s'il vous plaît, je vous le livrerai. » par le conseil du roi de France, qui le maintiendra en puissance. Il est petit, mais il grandira. S'il plaît à Dieu, il croîtra. Je le connais bien et le tiens pour mien. Je le tiens pour mien. Cela suffit à désigner l'héritier, à créer ce lien qu'on commence encore très timidement à appeler filiation et que le poème du XIIe siècle n'utilise pas encore. Bientôt, au XIIIe siècle, on verra le substantif apparaître notamment dans le français juridique, sécularisé des coutumiers. La patronelle filiation, la relation, le lien du fils au père, donc, est toujours présumée, comme le traduit la coutume d'Arras, que cite par exemple Anne Lefebvre-Teilhard, dans une langue hybridée de latin et d'ancien français. La mère est toujours certaine, « et si vulgo concepit », et même si la conception de l'enfant est vulgaire, hors mariage, dirions-nous. Mais, comme le dit le droit écrit, c'est-à-dire le droit de l'Empire romain, « pater vero hic est », por ce que les nues demonstrent, mais le père est celui que désignent les noces, le père est le mari de la mère. Au XIe siècle, pour parler du fils de Robert le Magnifique, nulle évocation de cette conception vulgaire, de la bâtardise de Guillaume, mais sans doute d'abord l'inquiétude de voir un enfant de 8 ans, 10 ans peut-être, revêtu du manteau ducal et recevoir l'hommage des barons. D'ailleurs, les désordres et les guerres intestines ne tardent pas. La légitimation du pouvoir de Guillaume et les étapes de son ascension politique et militaire ont bientôt peu à voir avec le statut de sa naissance. Au XIe siècle, les enjeux sont d'un autre ordre. C'est le moine bénédictin d'origine anglo-normande, Ordéric Vital, né en 1075 et mort vers 1142, qui le premier associe à l'histoire du duc le surnom de Notus, quand depuis son abbaye de Saint-Évroult en Ouche, il prolonge l'histoire des ducs des Normands, commencée par Guillaume de Jumièges à la génération précédente. Une génération d'écart, ce n'est pas rien. Oh,